Oui, Philippe, mais c'est juste des réflexions qui me sont venues quand suite à ton propos. Je m'interrogeais sur le problème de la nature du politique qui est en train peut-être de. Bon, si on définit par exemple le politique comme des prophètes, ou comme un prophète, hein, c'est-à-dire qu'il parle quand les gens n'ont plus rien à dire, c'est peut-être pas tout à fait ça. Vraiment, j'entends. Et par ailleurs, est-ce que c'est uniquement dans ce cas-là, à propos du développement durable, un porte-parole? C'est-à-dire qui ne ferait que répéter, mais sous son label, un certain nombre de choses, parce que, pour le dire plus explicitement peut-être, un des intérêts du discours politique, c'est aussi d'être joint à une action, c'est-à-dire éventuellement annoncer une action. Or, quand tu spécifies effectivement qu'après tout, ce qui vient assez décevant, ce que tu proposes, c'est l'importance même du discours qui est d'autant plus renforcé. Ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, peut-être, c'est le déplacement des clivages politiques là-dessus, ou relativement. C'est-à-dire que il semble que ça fasse plus ou moins consensus à droite comme à gauche, même s'il y a au moins au niveau général. Et puis je m'arrête là parce qu'on posera éventuellement d'autres questions après, parce que je vais faire trop.
On va prendre d'autres questions et puis comme ça tu répondras.
Mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit parce que ça me va bien. Je trouve qu'il y a peut-être une autre façon d'aborder le problème posé actuellement, c'est de se demander si certains se refoulent de la critique et n'est pas beaucoup plus vieux que le développement durable sur l'urbanisme. Moi je suis architecte urbaniste et ça fait quand même. Disons une trentaine d'années, pour être précis, où je suis sorti de la doxa moderniste, et où je m'aperçois qu'il est absolument impossible d'avoir une critique fondée sur l'urbanisme, en tout cas sur le urban design. C'est vrai, par exemple, pour les arts plastiques, on a une doxa de l'art contemporain qui autorise n'importe qui à faire n'importe quoi, de façon autoritaire. On a introduit un espèce de consensus dans les politiques, et c'est pour ça que je rebondis sur ce qui s'est dit, qui a c'est Michel, qui s'appelait bien dans le mythe d'Orphée sur le bouquin, qui dit qu'on a une espèce de consensus entre gauche et droite sur la politique des blocs, comme on l'appelle, qui est la politique dont les Proches-Orient qui se reproduisent et qui continuent dans le progrès. La consommation, etc. On est arrivé avec l'absence d'une opposition des rouges à un moment donné, comme dit Michel, à une espèce de consensus sur l'histoire infinie, on n'a plus qu'à l'aménager. Et on n'a plus qu'à avoir un consensus sur cet aménagement, y compris dans l'espace public. Et on a inventé un nouveau domaine qui est le développement durable, qui est un masque dans une période de crise grave. Qui dure depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, qui permet de répondre à des critiques environnementales, en plus du libéralisme. C'est-à-dire que surtout, on remet en cause le système de critique radicale, mais on se permet de répondre sur des critiques environnementales acceptables par le libéralisme. Et on se retrouve donc devant cette espèce de consensus mou, encore une fois, où la critique est impossible. Voilà.
Une minute, Philippe, et puis on va.
J'ai une minute. Oui, là, je vais essayer. Oui, je vais essayer. Oui, Philippe, effectivement, bon, je te suis, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis qu'aujourd'hui, tu constates que le développement durable, le discours du développement durable, une fonction légitimatrice et une fourmi idéologique, donc, hein, comme tu l'as analysé d'ailleurs dans un certain nombre de discours que je connais, des travaux de PVP sur le républicanisme, sur le projet urbain, etc., qui avait également ce type de fonction. Mais pour autant le développement durable s'attaque à un certain nombre de problèmes, hein, qui sont des problèmes environnementaux, aujourd'hui qui sont apparus. Face au productivisme effréné du capitalisme. Donc, est-ce que ces problèmes, pour toi, sont réels ou purement imaginaires? Je veux dire, par exemple, la question du changement climatique, est-ce qu'elle est réelle ou imaginaire, du réchauffement climatique? Est-ce que la destruction de la biodiversité, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est imaginaire? La fin des ressources énergétiques, du pétrole, tout ça, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est purement imaginaire? Est-ce que la pollution des eaux, la pollution des rivières, des sols, de l'air, etc. Est-ce que l'alimentation bourrée de pesticides, des produits chimiques, avec toutes les conséquences sanitaires que ça a, c'est réel ou imaginaire? Tous ces problèmes-là, même jusqu'à la justice, l'injustice environnementale, on a parlé à propos de Rio, où on part les pauvres dans des quartiers à risque, est-ce que tout ça c'est réel ou imaginaire? Donc, est-ce que l'urbanisme aujourd'hui n'a pas à affronter un certain nombre de nouveaux problèmes qui sont de ce type-là et que les solutions se cherchent. Les solutions se cherchent et qu'elles ne sont pas faciles à trouver, surtout dans le contexte, je répète encore, du néolibéralisme ambiant.
Je vais commencer peut-être par répondre à Albert Lévy. Est-ce que appréhender des phénomènes aussi graves que tout ce que tu as dit, les pesticides, l'alimentation, le changement climatique, etc., au travers des discours, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine façon, une faute morale face à l'urgence des problèmes sociaux?
Ce sont des problèmes sociaux.
Oui. Justement, ce sont des problèmes sociaux. Et moi, je suis chercheur. Je ne suis pas en situation d'apporter des réponses. De certaine façon, je ne crois pas que les chercheurs aient une quelconque possibilité sur ces problèmes pratiques et plus de possibilité d'apporter des réponses. D'autant que sur tous les problèmes de l'alimentation, la pollution, le changement climatique, etc., il y a un nombre considérable d'acteurs du monde académique, du monde institutionnel, des décideurs politiques, des techniciens, des administrateurs, etc., qui sont mobilisés. Et le fait qu'il y ait des chercheurs en sciences sociales qui viennent y apporter leur grain de sel, je ne crois pas que ça ferait avancer beaucoup les choses. En revanche, là où les chercheurs peuvent apporter, je crois, en cultivant délibérément une posture de recherche, c'est de regarder comment et pourquoi, d'une certaine façon, ces problèmes sont aujourd'hui posés et pourquoi ils sont posés dans les termes dans lesquels ils sont posés. La finalité de ce genre d'interrogation relève purement de la connaissance, mais comme je viens de le dire, je ne crois pas que l'action y gagne, que l'on en rajoute en plus par rapport à cette grande mobilisation qui se déroule. C'est une forme d'une certaine façon de morale personnelle ou morale de l'activité de la recherche. Je ne crois pas que le fait d'avoir, le fait de se soumettre à la charte européenne de la recherche, vous savez, qui a été signée par l'ensemble des organismes de recherche français. Dans la charte européenne de la recherche, il est stipulé que les chercheurs s'engagent à ne travailler que sur des questions socially useful, c'est-à-dire qui ont une utilité sociale immédiate. Ben non, moi je ne crois pas que ce soit le rôle social de la recherche que de travailler à cette socially useful. Si j'ose dire, donc je crois qu'il y a un domaine de la recherche qui est légitime et que celui qui porte sur la production de connaissances pour elle-même. Et moi je fais un travail d'épistémologie ou d'histoire des idées dans le domaine de l'urbanisme, je prétends pas pouvoir apporter des solutions, et je crois pas que si je cherchais à apporter des solutions, je serais incapable, en situation de développer ce regard épistémologique. Ça, c'est la première question. C'est une prise de position un peu doctrinale, mais à la limite, je crois qu'elle en vaut une autre, et je serai prêt à la défendre encore. Sur ce qui est de la question du politique, alors, c'est vrai que... est-ce que la politique, c'est simplement du discours? C'est finalement ça, le sens de la question de Gérard Bonin. Non, c'est pas que du discours, il y a sans doute de l'action, sauf que avec le développement durable, avec la thématique du développement durable, on s'aperçoit, je crois, que d'une certaine façon, c'est du discours à la place de l'action, et c'est une thématique qui entraîne ou qui engage fort peu d'action. D'une certaine façon, avec le développement durable, en fonction de l'angle d'attaque, le social, l'économique, l'environnemental, la démocratie participative, la préservation des ressources naturelles, la biodiversité, etc., il est possible de promouvoir une solution ou son contraire. Et politique, cette thématisation est fort peu rentable. Donc, elle est rentable par ailleurs, sur un autre plan, sur le plan peut-être, je le réaffirme, de la définition de rôle institutionnel. Pour ce qui est peut-être maintenant du développement durable comme masque, au même titre que peut l'être le design urbain et un certain nombre de démarches aujourd'hui qui, d'une certaine façon, justifieraient l'arbitraire du démiurge, architecte urbaniste, je crois qu'effectivement il y a une part idéologique, évidemment, mais ce qui m'intéresse plus que la mise à jour de cette part idéologique, c'est ses fondements, c'est-à-dire pourquoi on passe d'une idéologie à l'autre et quelles sont les assises ou les principes véhiculés par cet nouvel univers de possibilités qui se laisse saisir au travers des mots, des leitmotifs, des slogans qui sont mis à jour aujourd'hui et qui permettent peut-être justement cette forme de décision arbitraire de se déployer.